Cette semaine, je vous présente une autre de ces belles histoires d'innovation développée à Montréal. Cette fois, c'est Nani AI, une application créée par Ubawa Health qui est en passe de résoudre un défi universel, comprendre les pleurs des bébés et déceler les problèmes de santé sous-jacents. Après un succès déjà pour sa version bêta téléchargée dans plus de 200 pays, maintenant Nani AI est offert à tous, enfin tous, aux parents, aux grands-parents et à tous ceux qui sont en contact avec des petits bébés. Et là, on parle d'une application basée sur des années de recherche clinique dans des hôpitaux à travers le monde et développée par une équipe de scientifiques, d'experts en IA et en néonatologie. Pour parler de cette application Nani AI, on rejoint le chef des opérations d'application. Bonjour Florent Vaumard.
Bonjour Bruno.
Florent, expliquez-moi, j'ai tenté de le faire, là, mais vous, expliquez-moi ce que c'est l'application Nani AI.
L'application Nani AI, c'est une application qui a été conçue vraiment pour les parents de nouveau-nés. Donc, sa fonctionnalité star, son plus gros atout, c'est de traduire les pleurs des bébés. Mais on l'a développé pour aller plus loin que ça. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les parents dans les premiers mois de cette nouvelle expérience d'avoir un nouveau-né. Donc, elle permet aux parents de suivre la routine de leur enfant, de noter, par exemple, lorsque le bébé se réveille, lorsque le bébé s'endort, lorsque le bébé a fait ses selles, toutes ces choses qui, au final, sont importantes à noter parce que lorsqu'ils vont rencontrer leur pédiatre, ces questions vont être posées. Donc, on est vraiment parti à la base de cette idée de, il y a quelque chose dans les pleurs, il y a un signal dans le pleur qui nous permet de savoir pourquoi le bébé pleure, utilisons-le. Et on a vu qu'il y a eu un fort succès, hein, vraiment une forte adaptation des utilisateurs par rapport à ça. En parlant avec les utilisateurs, on s'est rendu compte qu'ils voulaient plus, évidemment, et c'est pour ça qu'on a étendu ce concept à vraiment créer une application qui fournit une aide plus holistique aux parents.
Mais comment on décide un jour de créer une application qui traduit des pleurs de bébé? Je trouve ça fascinant, moi, que quelqu'un pense à ça.
Je dirais pas que c'était quasiment une chance, mais c'est un peu de ça. En fait, c'est vraiment partie d'études cliniques qui, elles, avaient pour objectif principal d'aller identifier des troubles neurologiques dans les pleurs des bébés. Donc ça aussi, il y a une genèse et il y a une autre histoire par rapport à ça. Mais ça, c'était vraiment le fondement des études cliniques, c'était d'aller annoter, d'aller récupérer, de récolter des pleurs de bébés en milieu hospitalier et d'aller les annoter pour certaines conditions médicales pour pouvoir identifier des troubles neurologiques. Mais au travers de ces études, on demandait aussi aux médecins, aux néonatologistes avec lesquels on travaillait, de noter pourquoi le bébé pleurait. Et une des raisons pour lesquelles on faisait ça à la base, c'était vraiment parce qu'on voulait pouvoir identifier la différence entre un pleur de douleur et un pleur qui n'est pas un pleur de douleur. Donc, à la base, on partait vraiment là-dessus. Et donc, on a commencé à récupérer ces annotations. Donc, par exemple, quand le bébé pleurait parce que il y avait une prise de sang, on savait que c'était un pleur de douleur. Mais ils ont aussi annoté, par exemple, quand le bébé, ça faisait quelques heures qu'il n'avait pas été nourri ou suffisamment longtemps que c'était l'heure d'être nourri, qu'il pleurait, ensuite il était nourri et il ne pleurait plus. Ça, c'était un pleur de faim. Et donc, on a récupéré ces annotations en milieu clinique pendant plus de 4 ans. Dans les hôpitaux au travers du monde. Puis un jour, on s'est dit, mais on crée ces modèles, on travaille sur ces modèles médicaux pour les troubles neurologiques, mais on a aussi des super belles données qui pourraient aider les parents. Et c'est de là que notre bêta est apparu et qu'on s'est dit, bon, bah, essayons-le. On a créé les modèles, on a développé les modèles en réutilisant notre plateforme qu'on a développée au niveau du processing du signal du son. Et on a lancé l'application et c'est là qu'on a vu qu'il y avait un réel intérêt. Alors, on s'est dit, OK, on embarque.
Parce que ce que je comprends de ce que vous nous racontez, c'est que dans le fond, pendant 4 ans, vous avez monté une trousse de données qui, par la suite, pouvait enseigner à une intelligence artificielle d'arriver à faire des parallèles entre les différents pleurs.
C'est exactement ça. Et puis, ça continue. Hein. On continue nos études cliniques. On pense qu'il y a aussi d'autres conditions que celles des troubles neurologiques qui peuvent être détectés par les pleurs. En fait, c'est un peu la vision de notre entreprise, de Benoît et de ce qu'on veut faire. C'est vraiment on veut que les gens considèrent et que le milieu hospitalier considère les pleurs comme un signe vital. C'est-à-dire qu'on parle souvent, évidemment, de la température, du pouls, mais le pleur, finalement, c'est le premier langage du bébé. C'est contrôlé par le système nerveux. Un bébé ne choisit pas de pleurer. C'est un signal qui est émis en début de vie. Évidemment, ça change avec l'âge, mais au début, c'est vraiment ce que c'est. Et donc, ce qu'on dit, c'est que si on est capable d'interpréter ce signal et d'essayer de comprendre ce qu'il y a dedans, ben on a tout d'un coup à disposition plein de données vraiment intéressantes pour mieux comprendre l'état de santé du bébé et potentiellement identifier des troubles de façon combinée aussi avec les autres indicateurs qu'on peut utiliser aujourd'hui.
Mais dans les faits, comment vous arrivez à traduire les pleurs? Est-ce que c'est la tonalité, c'est la longueur? Qu'est-ce qui arrive l'IA à l'amener vers une réponse?
Alors, il y a pas une réponse directe à ça. Je dirais, il y a deux réponses. On travaille sur extraire certains marqueurs dans la voix. Donc, on peut penser, par exemple, à la fréquence du pleur. On peut penser à la durée d'une expiration, donc le ouin. On peut aussi durer la durée entre les expirations. Et c'est assez intuitif. Si on y pense, un bébé qui va être très énervé, qui va peut-être être en douleur, il y a des chances pour que sa fréquence soit plus élevée, pour que les pauses soient plus courtes parce qu'il hurle, parce qu'il se laisse pas le temps. Donc, il y a un côté très intuitif
là-dedans. C'est les signes que les parents ont pris depuis toujours là, pour
c'est
essayer de jouer
ça.
Ce qui se passait. Là, ouais.
C'est exactement ça. Ils l'apprennent naturellement et les néonatologues l'ont appris aussi pendant des générations. Donc, c'est quelque chose qui est intuitif, mais pas toujours perceptible. Ça, c'est une partie, je dirais, de l'équation. C'est pas toute l'équation, sinon ça serait plus facile que ça. Et l'autre partie, c'est qu'on utilise des modèles qu'on dit d'apprentissage profond, de deep learning. Et évidemment, c'est des modèles qui sont un peu plus boîte noire. Donc, c'est plus difficile d'expliquer, de corréler, de comprendre exactement pourquoi, mais c'est extrêmement performant. Et c'est eux qui nous permettent d'avoir aujourd'hui, par exemple, pour ce qui est des troubles neurologiques, on parle dans nos dernières études d'une précision d'au-dessus de 90% pour identifier si un enfant a a des risques de troubles neurologiques ou non, juste via les pleurs. Donc, imaginez quand on rajoute les autres éléments de santé de l'enfant pour prendre en compte cette décision.
Vous parlez d'apprentissage machine, on parle d'intelligence artificielle. Vos bureaux sont situés au Milan. Vous avez un lien un peu particulier, puis je veux quand même le souligner parce que ça montre le sérieux de votre travail s'il y a des gens qui en doutent. Et c'est le fait que, en quelque sorte, vous avez un parrain qui, peut-être que les gens vont connaître le nom. Si je dis Yoshua Bengio, j'allais dire, vous faites partie de ses disciples, vous faites partie de ces gens qui ont travaillé avec lui, qui travaillent toujours avec lui.
On a cette chance énorme d'avoir Yoshua comme ange investisseur et comme conseiller scientifique. Donc c'est un des cofondateurs, Charles, notre CEO. Lui, il a fait son post-doc à McGill en apprentissage profond. Et puis au travers de ça, il a travaillé avec le Mila aussi. Et c'est là que les relations se sont créées. Et évidemment, Yoshua était intéressé par le projet pour ses impacts potentiels parce que évidemment, il y a le côté scientifique qui est passionnant, mais il y a aussi le côté médical et l'impact parce que on parle d'une solution potentiellement non invasive pour détecter des troubles qui ont des impacts vraiment extrêmement forts dans des pays en voie de développement. Donc, c'est quelque chose qui, évidemment, l'a beaucoup touché. Et donc, c'est certain qu'il est, il est, il, c'est juste génial de l'avoir. C'est génial au niveau scientifique, c'est génial au niveau crédibilité, comme vous le dites, parce que c'est quelqu'un qui a une telle réputation que rien que...
Il a une aura, donc s'il s'associe à vous, on voit le sérieux de la chose.
Mais à raison, j'ai eu peu de rencontres ou de séminaires scientifiques parce que c'est pas moi qui suis le scientifique dans la salle, mais quand il est là, en quelques minutes, ses additions et ses commentaires sont toujours extrêmement pertinents. Donc, on est vraiment, vraiment chanceux.
Je vous détache de la partie mystérieuse ou magique ou fascinante de votre application. Mais il y a, puis vous en avez parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je vais revenir là-dessus. Il y a le volet aussi d'aide aux parents. Vous savez, quand on, je sais plus si c'est encore le cas, mais moi, encore à l'époque, quand j'ai eu mes enfants, on nous donnait dans la préparation des parents une petite brique bleue, là, un livre, puis c'était un peu comme la Bible des enfants, et pour essayer de savoir ce qu'il fallait faire, quoique finalement, on découvre que ça s'en prend sur le tas. Mais vous avez décidé d'ajouter à votre application un agent conversationnel qui, justement, est là pour aider les gens. L'information, parce que là, c'est toujours délicat. C'est pas à vous que je l'apprends. Quand on travaille avec l'IA, il y a des hallucinations, il y a des choses du genre, même si on le fait travailler sur une trousse de données bien serrée. Comment on arrive à s'assurer que l'information que cet agent conversationnel-là va donner aux parents va être la bonne?
On préfère prendre plus et trop de précautions que pas assez. Comme elle dit, l'IA générative, puis les LLM sont devenus très, très à la mode ces dernières 2 années. Donc, d'une part, entraîner effectivement sur des données plus précises, puis mettre vraiment des garde-fous. Et je veux pas prendre le crédit. Aujourd'hui, ces modèles viennent avec des options. Hein. Si on prend un ChatGPT d'OpenAI, etc., ils font déjà le gros du travail en termes de mettre ces garde-fous. C'est toujours possible de piéger un modèle quand on sait vraiment s'y prendre et puis qu'on veut vraiment. C'est la vérité. Mais c'est ça, on le teste rigoureusement, on lui parle beaucoup et on constate que ça se passe très bien et qu'il sait à quel moment dire, ben regarde là, c'est du médical, je suis pas amené à parler de ça, mais ça c'est une information qui est intéressante. Puis ce qui est génial avec l'IA générative, c'est que ça marche dans toutes les langues aussi. Donc on a des utilisateurs qui sont aux quatre coins de la planète qui lui parlent en hindi, en portugais et ça lui répond, et ça c'est quand même phénoménal par rapport au temps que ça prend à mettre en place versus le output. C'est merveilleux.
Quel type de questions ou de sujets l'agent conversationnel reçoit le plus souvent comme question, comme...
C'est souvent drôle. Il y a plusieurs types de questions, mais c'est souvent des questions quand même sur je n'arrive pas à calmer mon bébé. Que puis-je faire? J'ai nourri mon bébé, il continue de pleurer. Donc c'est quand même des questions qui nous amènent à constater qu'il y a un degré d'anxiété, qu'il y a un degré de ça ne fonctionne pas, et c'est pour ça qu'on télécharge votre application, c'est pour ça qu'on veut utiliser le traducteur de pleurs. Et que c'est pas facile et que c'est difficile. Je dirais que c'est vraiment le plus fréquent. Certains l'utilisent aussi simplement pour dire, est-ce que tu peux raconter une histoire pour avoir une histoire à raconter. Et puis s'il y a quelqu'un qui raconte des belles histoires, c'est évidemment de l'IA générative. Donc invente une histoire sur le tas pour un bébé. Donc c'est assez varié et puis c'est super intéressant pour nous évidemment quand on conçoit une application d'avoir quelque chose comme ça, parce que ça nous permet de rentrer un peu dans la tête et de comprendre ce que les utilisateurs veulent voir pour s'assurer que on s'adapte puis qu'on leur propose des outils puis des fonctionnalités qui les intéressent.
D'un côté éthique, parce que c'est quand même important, parce que vous jouez avec un peu la vie de ces bébés, de ces familles-là. Donc, il y a énormément d'informations qui passent chez vous. Qu'est-ce que vous faites avec toutes ces données? Est-ce qu'elles servent à la recherche? Est-ce qu'elles sont commercialisées? Est-ce qu'elles sont anonymisées? Est-ce qu'elles sont détruites? Comment ça se passe?
Les données sont anonymisées, mais ne sont pas commercialisées. Puis c'est pas du tout quelque chose qu'on a dans nos ambitions futures. On les utilise par contre pour continuer à améliorer nos modèles. Donc il y a vraiment cet effet un peu bénéfique, cercle vertueux d'avoir plus
machine.
De données, d'apprentissage machine, c'est ça. Parce que d'un côté évidemment il faut des données à noter puis à noter correctement, mais même en fait être capable de bien reconnaître ce que c'est qu'un pleur. Pour donner un peu un ordre de grandeur, je pense qu'il a fallu 2 à 3 mois à l'application pour obtenir autant de pleurs que ce qu'on a pu obtenir en 4 ans d'études. Alors évidemment, c'était des pleurs annotés par des pédiatres en milieu professionnel. Donc c'est autre chose, mais ça montre quand même l'importance. Et maintenant, on doit en récupérer en 2 jours. On doit avoir plus de pleurs que ce qu'on a fait en 4 ans d'études parce que l'application est beaucoup plus utilisée évidemment maintenant. Donc il y a vraiment cet effet extrêmement positif de mieux comprendre ce qu'est un pleur. Et puis avec l'effet de communiquer avec les parents, est-ce que ça a fonctionné? Donc on leur demande, et on propose des recommandations, puis ils peuvent dire ok oui ça a fonctionné. Et là on sait s'ils nous disent ok c'était un pleur de faim, j'ai nourri mon enfant, ou c'était un inconfort, et puis j'ai changé la couche, ou effectivement il y a quelque chose qui était coincé. Donc on leur propose les différentes possibilités. Une fois qu'ils nous disent oui c'est ça, ben on sait qu'on a que c'était vraiment, fait que ça valide le modèle, ça nous permet d'avoir des données aussi annotées par les parents eux-mêmes au travers de l'expérience.
Et est-ce que Nanny AI pourrait s'adapter à un enfant?
Absolument. Puis je pense qu'on va devoir aller dans cette direction-là aussi parce que les enfants apprennent très vite, les bébés apprennent à une vitesse incroyable. Ils apprennent de leur environnement, de leurs parents, les parents apprennent de leur enfant également. Donc c'est sûr que à partir d'un certain moment, les pleurs vont évoluer, puis ils vont être peut-être plus personnels, ils vont être plus touchés par l'environnement qu'à la naissance où c'est vraiment le système nerveux qui contrôle. Donc, je pense que c'est essentiel pour nous si on veut continuer à améliorer nos modèles, particulièrement pour des enfants j'ai envie de dire plus âgés, mais on parle de bébés de plus de 6 mois, de continuer à offrir finalement une traduction, une interprétation, je dirais, précise et bonne travers du temps, oui.
Je reviens sur un aspect de votre réponse précédente. Vous parliez des professionnels. Ça veut dire que l'application, elle sert à la fois aux parents, mais elle peut aussi servir aux professionnels.
En fait, on aimerait beaucoup être un peu le pont entre le milieu parental et le milieu professionnel, non seulement au niveau du pleur, mais le pleur et la compréhension des pleurs, c'est pas, je dirais, de façon générale, l'utilisation des sons et des pleurs dans la médecine n'est pas quelque chose qui est existant. Donc c'est quelque chose où évidemment on a une belle technologie, mais on se heurte aussi à la nouveauté, au fait que c'est pas, les gens sont pas équipés, prêts à ça. Donc on travaille plus avec les pédiatres aujourd'hui sur quelles sont les informations dont vous avez besoin lorsque vous avez des visites de routine avec vos parents. Et puis notre idée, c'est de dire, OK, on veut aider les parents à construire cette image dans l'application de la meilleure façon, puis de la façon la plus intelligente. Donc, par exemple, bébé s'endort, vous avez quelque chose, vous avez un biberon dans les mains, vous pouvez simplement dire à Nani, Mila s'est endormie. Et là, l'application va noter. Va transformer cette parole en une routine de OK, ben Mila s'est endormie. Et donc on va pouvoir créer cette image et cette de la routine, finalement ce calendrier du bébé, et pouvoir dire à la fin de la semaine, ben cette semaine vous voyez que votre bébé a dormi à peu près 14 heures par semaine, c'est tout à fait normal. Votre bébé s'est nourri à peu près 6 ou 7 fois, a eu des selles X fois, et puis c'est quelque chose qui va permettre d'éduquer la conversation avec le médecin, parce que le médecin demande, est-ce que votre bébé dort bien? Qu'est-ce que ça veut dire bien? Ben, là, on a des stats, on a des données fiables. Donc, il y a ça, puis évidemment, il y a aussi tout ce qui est les jalons de développement. Et ça, on s'équipe ardemment et sans gêne du CDC, qui fournit toutes les finalement les informations qui disent, OK, ben un bébé à partir de 4 mois, il est censé être capable de. Puis là, j'en dis une sans savoir si c'est la bonne période, donc ne m'arrêtez pas là-dessus. Mais après 6 mois, il est censé se tenir droit, par exemple, si on le pose. Ça, c'est une marge. C'est quelque chose qu'un pédiatre va te demander au rendez-vous après 6 mois pour valider que ça fonctionne. Donc là, on va finalement permettre aux parents de comprendre quels sont ces jalons déjà à l'avance, de voir à quoi ils correspondent avec des vidéos du CDC, puis ensuite ça va me dire, bah oui, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Puis on arrive à la rencontre en disant, bah en fait. Moi, j'ai une petite inquiétude. Il y a ce jalon-là que j'ai vu, mon enfant ne le fait pas. Puis là, le médecin va pouvoir dire aucune inquiétude ou ah, OK, on va regarder. Mais ça permet d'éduquer. Et puis, ce qu'on a ressenti dans les discussions avec les pédiatres, c'est qu'il y a un besoin. Ils le savent que ces rencontres sont rapides, que des fois les parents repartent, ils avaient encore des questions, mais on sait que le système de santé est quand même très, très intense. On n'a pas autant de pédiatres qu'on voudrait. Donc, on essaye de transformer l'application pour qu'elle puisse faire ce pont vraiment entre le pédiatre et les parents. Et c'est vraiment une première étape pour nous, parce qu'on voit beaucoup plus loin pour ce qui est du médical dans l'application pour le futur.
Ben justement, vous parliez de jalons pour l'enfant. Les prochaines étapes pour Nanny AI, ça ressemble à quoi?
Prochaines étapes, on a plein d'idées de fonctionnalités un peu plus intelligentes à mettre. Donc, s'attendre à des, par exemple, des prédictions de quand est-ce que bébé va se réveiller, quand est-ce que c'est une bonne période pour remettre bébé au lit basé sur son cycle. On travaille aussi sur un rapport de santé, vraiment quelque chose qui va être fait pour quasiment envoyer en PDF à votre pédiatre, puis ça donnera toute l'information. Ça, je dirais, c'est du très court terme. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Mais la recherche et développement continue très, très fort du côté médical et de nos algorithmes qui permettent de détecter, eux, les troubles neurologiques. Et on est à la phase où on veut aller chercher l'approbation par Santé Canada, par le FDA pour ces modèles-là. Et donc là, ça ouvre vraiment une autre perspective, parce que on aimerait à terme pouvoir les intégrer et dans l'application, mais aussi potentiellement dans des moniteurs pour bébés, dans
Ah
des
ben là, on va être dans le
même dans
domaine de
des
la medtech, là.
là on va être dans le domaine de la medtech, absolument, et au milieu hospitalier et au milieu de la maison, parce qu'il faut pas se mentir, le milieu, il y a de plus en plus de plus en plus le monitoring, le suivi de la santé sort du milieu clinique et s'en vient à la maison.
Ben,
Donc
pour les
ça
adultes,
commence
tu as les
par
Apple Watch et compagnie, et donc
exactement la
Nanny AI, c'est pour
Fitbit.
l'enfant. Ouais.
C'est exactement ça. Il y a la Fitbit, le iWatch qui joue beaucoup sur cet aspect, donner de l'information de la santé. Nous, on est fidèle à notre credo, qu'on sait que c'est dans les pleurs qu'il y a des beaux signaux, et puis c'est notre expertise. Je pense qu'il y a des opportunités, évidemment, d'intégrer ça avec d'autres éléments. Pourquoi pas, je sais pas, il y a aussi des Fitbit pour enfants, pour bébés, peut-être pas, mais on peut tout à fait imaginer que ce sera pas juste les pleurs, mais rien qu'avec les pleurs, on est convaincu qu'on va pouvoir finalement offrir une autre façon de suivre et de surveiller la santé des bébés à la maison. Puis j'ai envie de dire, la surveiller, c'est un aspect, évidemment, quand on parle de pays en voie de développement où une grande partie de ces troubles neurologiques ne sont pas du tout détectés, même en milieu hospitalier. Là, on parle vraiment même d'un impact
Ah, c'est une
clair sur des
révolution, là.
millions. Oui, c'est vraiment, c'est ça aussi la mission, c'est ça qui nous tient à cœur. C'est pour ça que le nom de l'entreprise, c'est le pleur du bébé, le cri du bébé en dialecte nigérien, en Igbo, parce qu'on sait que c'est là-bas qu'il va y avoir le plus d'impact, puis c'est aussi ça qui nous drive.
En terminant, parce que là, je suis sûr qu'il y a des parents, des grands-parents, des amis de parents, des futurs parents qui écoutent cette entrevue-là. Nani AI, je présume que c'est pas gratuit. Comment ça fonctionne?
Aujourd'hui, l'application est complètement gratuite, donc il suffit simplement de la télécharger sur le App Store si vous avez un iPhone ou le Play Store si vous avez un téléphone Android. Elle est disponible entièrement gratuite aujourd'hui. Il se peut que dans le futur, certaines fonctionnalités deviennent payantes, mais aujourd'hui, on est vraiment notre priorité, c'est comprendre, aider, apporter de la valeur. Et ça, c'est en ayant le plus d'utilisateurs possible et en ayant le plus d'utilisation possible qu'on va pouvoir le faire. Aussi, faut savoir que chaque pleur enregistré de nouveau nous permet de mieux comprendre ce qu'est un pleur. Et quand je dis nous, je parle vraiment de nos algorithmes. Et donc, derrière ça, c'est aussi quelque chose qu'on sait que ça va nous aider sur notre portion de recherche. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est très intéressant pour nous d'avoir l'application gratuite parce que ça permet simplement d'avoir du volume et d'aider nos algorithmes qui, eux, à terme, vont pouvoir créer des solutions médicales.
Je pensais jamais pouvoir dire ça un jour, faire avancer la science un pleur à la fois. C'est vraiment fascinant.
Oui, mais on ne souhaite pas aux parents
Non.
trop de pleurs non plus. Ça m'arrive régulièrement de les écouter. On fait des contrôles de qualité, etc. Et
Aïe, aïe, aïe. Ça doit être
c'est
déchirant
jamais
des fois.
pas déchirant. Ouais, c'est toujours ça vient toujours prendre de les entendre.
Laurent Vumard, vous êtes chef des opérations pour l'application Nanny AI. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Bruno. Une excellente journée.